Il est 18h sur Europe 1. Merci d'être là si vous nous rejoignez.
Europe Soir Weekend, 18h, 20h.
Pierre de Villeneau.
Et donc notre premier sujet de discussion, c'est le secret de la confession. Secret absolu, de nature à surpasser les lois de la République, spécialement dans les cas d'abus sexuels sur mineurs. La bombe est lâchée. Nous sommes mercredi dernier, le 6, sur France Info. Et il est un peu plus de 8h30.
Est-ce que la confession s'impose à nous et il s'imposera,
et elle est plus forte que les lois de la République.
Et en ce sens-là, il est plus fort que les lois de la République. Maintenant, il faut que nous voyions, parce qu'il ouvre un espace de parole libre qui se fait devant Dieu.
Voilà donc cette comparaison qui ouvre le débat. Quelques secondes plus tard, le président de la Conférence des évêques de France précise son argumentation. Il attend la feuille de route pour que les prêtres soient mieux accompagnés s'il faut alerter.
Les violences sexuelles ne sont pas un problème de chasteté, c'est un problème d'atteinte à la vie, c'est un problème de crime, de meurtre. Et ça, symboliquement au moins, et c'est très important, il est très important de le voir.
Voilà, tout ça à travers la CIAZ, la Commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église. Nous voilà donc devant 216 000 victimes qui entendent bien sûr ces propos, puisqu'on en parle. Je le disais en introduction, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin va s'entretenir mardi avec Monseigneur de Moulins-Beaufort. Mais entre-temps, le gouvernement s'est déjà exprimé par son porte-parole Gabriel Attal qui a rappelé qu'il n'y avait rien au-dessus des lois de la République. Et ce soir, dans une interview de Darius Rochebain sur LCI, le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, réagit lui aussi.
Il n'y a pas d'autre loi que celle de la République dans la République. Il faut être clair, il n'y a pas de loi de l'Église dans la République.
Donc l'obligation de dénoncer est intégrale.
Alors, je vais vous dire en droit comment les choses se présentent. Si un prêtre reçoit, dans le cadre de la confession, soit d'une victime, soit d'un auteur, la connaissance de l'existence de faits qui se déroulent, c'est le gamin qui dit au prêtre « je suis victime en ce moment, tous les mercredis, d'un viol de la part d'eux ». Alors, il a l'impérieuse obligation de mettre un terme à ces faits.
Et s'il ne le fait pas, il peut être condamné.
Il doit l'être. Ça s'appelle non-empêchement de crime ou de délit. S'agissant du secret professionnel, il n'est pas absolu, comme d'ailleurs le secret médical en la matière. Et si le prêtre reçoit la confidence, soit par une victime, soit par un auteur, de faits qui seraient prescrits, ou qui à tout le moins seraient des faits passés, alors il n'est pas tenu par le secret professionnel, comme le médecin.
Voilà donc cette interview à retrouver en long à partir de 20h30 sur LCI avec Darius Rochebain. J'ai envie de vous entendre tous, bien évidemment, mais d'abord peut-être, nous avons la chance d'avoir un ancien magistrat parmi nous. Quand Éric Dupond-Moretti prend la parole ce soir, c'est sur un sujet grave, évidemment, terrible.
Bien sûr, d'abord c'est un fléau qui touche non seulement l'Église catholique, hein, mais j'ai rencontré ce fléau moi aussi dans d'autres organisations, je pense à des sectes, entre autres, mais milieu familial, l'école, qui sont aussi des lieux où se produit malheureusement des faits de pédocriminalité,
oui.
Qui est le terme à employer, oui. Non pas de pédophilie. Hein. Je partage l'analyse qui est faite par le garde des Sceaux. Le droit, il nous dit quoi ? Le droit nous dit qu'il y a un secret professionnel.
Mmh.
Avocat, médecin. Et d'ailleurs, vous remarquerez qu'il n'est pas dans la loi, le secret de la confession.
Hein.
C'est une construction jurisprudentielle de la Cour de cassation.
Elle relève du Vatican, apparemment.
Non, de la Cour de cassation aussi, bien sûr. Il y a le droit canonique, hein, qui prévoit même l'excommunication d'un clerc s'il viole son secret.
Bah, en tout cas, celui qui pourrait lever le secret de la confession, j'allais dire urbi et orbi, mais en tout cas, dans le monde entier, c'est le pape. Voilà.
Oui, mais il ne reviendra pas là-dessus. Le secret de la confession, c'est inhérent véritablement à la religion. Mais pour autant, la Cour de cassation a assimilé, quelque part, le secret confessionnel au secret professionnel, statutaire.
Voilà. Ce qui est prévu en France.
Voilà. Alors, une fois qu'on a dit cela, le secret n'est absolu pour aucun détenteur du secret professionnel. Aucun, que ce soit l'avocat, que ce soit le médecin, et a fortiori, le prêtre. Dès lors qu'il reçoit des informations sur des crimes notamment sur des mineurs, peu importe l'âge d'ailleurs aujourd'hui, peu importe l'âge, des crimes sexuels, il est autorisé, voire obligé, de dénoncer ces faits à l'autorité judiciaire ou administrative. Donc ça, c'est une loi qui doit s'appliquer à tous les détenteurs de secrets, qu'ils soient laïcs ou qu'ils viennent du clergé, voyez-vous. Donc la réaction sans doute maladroite de l'évêque devra être rectifiée, bien entendu, dans ce sens-là, car là, il est évident qu'aucune loi n'est supérieure aux lois de la République et que nous vivons dans un régime, d'ailleurs, de séparation des Églises et de l'État.
Patrick Aram.
En tant que chrétien, je suis vraiment choqué. Choqué par ce discours. Choqué par ce discours parce qu'il intervient à quel moment ? Au lendemain de la remise du rapport Sauvé. Souvenez-vous, on parlait des viols d'enfants dans l'Église et à l'époque, avant ce rapport Sauvé, on disait 10 000 personnes.
Jean-Marc Sauvé, hein, qui est l'auteur de ce rapport.
L'ancien vice-président du Conseil d'État, on disait quelques dizaines de milliers de personnes. Et là, c'est une bombe. C'est 216 000 mineurs en 70 personnes, dont 84% sont des mineurs, mais c'est 330 000 personnes, si on inclut des laïcs rattachés à l'Église catholique,
exactement,
qui ont agi dans le cadre d'une mission pour le compte de l'Église catholique. On ne peut pas tenir ce discours-là avec ces chiffres-là. Là, pour le coup, je le dis de manière très claire, l'Église est en train aujourd'hui de rentrer dans un cycle de perdition. Ça choque les croyants, ça choque également tous les Français. Tous les Français, d'ailleurs l'impact est mondial, puisque le pape lui-même s'en était mieux. Et ce que je veux dire, c'est qu'on ne peut pas dire aux musulmans, vous devez placer votre foi sous la loi. La loi doit être au-dessus de la foi, et que pour les chrétiens, on puisse avoir une autre analyse. La loi, d'abord, et la foi, ensuite, c'est ça la République, et c'est ça les règles qui doivent s'imposer à tous.
Isabelle Florenne.
Oui, moi je partage absolument ce qui vient d'être dit par Georges Feguenec et Patrick Aram. Je suis heureuse d'entendre les paroles du garde des Sceaux ce soir, parce que évidemment c'est choquant de laisser entendre, au moment où nous avons voté quand même et fait adopter en juillet une loi pour lutter contre les séparatismes. Faut pas faire de distinction. La loi de la République, elle doit aussi s'attacher à protéger. Et là, on a bien un cas énorme avec cette révélation et ces révélations de ce rapport qui font que l'Église, en tout cas, doit réagir et que là, on est à un point
d'ailleurs,
de non-retour quand même sur ces réactions. Je voulais juste ajouter une chose, parce que je viens de lire ça ce soir, et ça me semble intéressant. La communauté laïque, les influenceurs maintenant laïques qui utilisent les réseaux sociaux, sont en train de bouger et dire on ne peut pas accepter ce qui s'est passé. Et on doit bouger, et l'épiscopat français doit réagir et doit se saisir des révélations de ce rapport. Je suis heureuse de voir que les laïcs qui sont concernés et qui veulent que l'Église catholique et les chrétiens puissent continuer à prospérer, ou en tout cas l'Église à évoluer, poussent cela. Je trouve ça intéressant. J'ai lu ça sur les réseaux sociaux et je crois que c'est aussi important de voir qu'il y a une réaction au sein de l'Église via les laïcs qui sont partie prenante aussi de cette évolution de l'Église.
Surtout que Monseigneur de Moulins-Beaufort, a priori, a été justement interviewé chez nos confrères de France Info parce qu'il y avait ce rapport, justement.
Absolument.
Donc, il fallait être précautionneux.
Mais il fallait avoir une parole forte,
et
comme l'a eu le pape.
Une parole forte. Alors, ce que je vous propose de faire, et je vous donnerai la parole juste après, Maxime Yedo, c'est on va entendre le début du questionnement. Et on ne peut pas s'empêcher, et je ne me fais aucunement l'avocat de Monseigneur Moulins-Beaufort, on ne peut pas s'empêcher de se dire que peut-être qu'il pensait au secret, comment dirais-je, de la confession, d'une manière générale, et peut-être pas forcément spécifiquement pour cette question-là. On écoute.
Alors la confession doit rester secrète, le secret de la confession restera parce que ça ouvre un espace de parole libre.
Même pour ces sujets-là.
Il faut que nous regardions de très près la recommandation de la CIAS, qui est assez précise, assez subtile, assez nuancée.
C'est-à-dire que la confession n'obéit pas aux lois françaises. C'est un endroit où ce qui se dit, normalement, il y a une obligation. Si je dis à ce micro, Monseigneur, j'ai été victime ou témoin de quelque chose, vous avez le devoir d'aller voir un policier ou un gendarme. Ce que vous dites, c'est que le secret de la confession, aujourd'hui, est plus fort que les lois de la République.
Est-ce que la confession s'impose à nous et il s'imposera,
et elle est plus forte que les lois de la République.
Et en ce sens-là, il est plus fort que les lois de la République. Maintenant, il faut que nous voyions, parce qu'il ouvre un espace de parole libre qui se fait devant Dieu.
Voilà. Ça dure une demi-seconde. Hein. C'est-à-dire qu'effectivement, et c'est ce qu'on disait Isabelle Florenne, c'est-à-dire que c'est là où il aurait fallu réagir.
Absolument.
Peut-être d'une autre manière.
Moi, je pense, juste le jour ou le lendemain de la sortie de ce rapport, on attendait autre chose. Je ne dis pas qu'il n'y a pas autre chose. J'ai lu, comme tout le monde, ce qui se dit. Je sais qu'il y a des choses qui avancent. On sait que le diocèse de Paris, par exemple, travaille maintenant sur des conventions avec le procureur de la République et qu'il y a des choses qui doivent se faire. C'est préconisé dans le rapport. Maintenant, la parole du président de la conférence des évêques en ce moment précis,
qui dit
cette semaine...
Le secret de la confession s'impose à nous. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il y a une charte de plomb, un plafond de verre.
C'est comme si on lave le linge sale en famille. C'est ça le problème. C'est qu'on a ça dans d'autres milieux. On a ça dans le milieu du sport, on a ça dans d'autres secteurs. Et ça n'est absolument pas possible. Juste un mot quand même. L'Église catholique est en proie à des turbulences. Il n'y a plus de vocation, il n'y a plus de prêtres. Il y a très peu aujourd'hui de vocations religieuses. Et puis, vous savez, la base des croyants reproche aujourd'hui à la hiérarchie, aux évêques, de trahir l'Église. Vous avez ce débat-là qui est ancré. Alors, on ne l'entend pas. On ne l'entend pas publiquement. Mais je pense que sa parole, cette parole-là et ce rapport-là ne va pas apaiser la situation entre la base et la hiérarchie.
On n'a pas entendu Maxime Yedo sur le sujet, pardon.
Non, mais je pense sincèrement qu'il y a plusieurs choses, parce que c'est un sujet éminemment complexe, comme l'a très bien rappelé Georges Fenech. En effet, c'est une décision de la Cour de cassation qui date de 1810, et la jurisprudence est constante. Le secret de la confession est au même niveau, en effet, que le secret professionnel ou le secret médical. Donc ça, c'est la première chose. Mais en 2004, il y a une circulaire qui dit que le ministère des Cultes fait une faute s'il trahit le secret, mais que, en quelque sorte, ce secret peut être trahi en fonction de certains éléments, dont les abus sexuels. Donc voilà, une fois qu'on a rappelé ce cadre, il n'y a pas tellement de discussion à avoir, le cadre est posé, il suffit, je pense, de le connaître et d'en avoir la nuance pour le comprendre. Maintenant, à mon sens, c'est un faux sujet. Parce que la confession ici, ce n'est même pas le problème. Parce que ce que révèle ce rapport, c'est pas que des prêtres ont été alertés dans le cadre de la confession et qu'ils n'ont pas parlé. C'est qu'il y a tout un système. Et il y avait un excellent papier de Lacroix qui expliquait d'ailleurs pourquoi le mot systémique, éventuellement, dans ce domaine-là, pouvait être utilisé. Parce que c'est bien le sujet. Il ne s'agit pas de quelques confidences qui ne sont pas sorties.
Qui sont de moins en moins nombreuses, d'ailleurs, avec le
exactement,
temps.
Exactement. Il s'agit réellement
des décennies.
Il s'agit évidemment de comportements qui ont été déviants, qui étaient connus et qui n'ont pas été dénoncés. Il y a même le rapport de certains de ces événements dans certains rapports de diocèse qui ne sont pas exposés au public, etc. Donc qu'on parle et qu'on fasse un véritable sujet autour du secret de la confession, pourquoi pas, très bien. Mais dans le cadre précis, et si on revient à l'actualité de ce début de semaine qui était le rapport Sauvé, il ne s'agit pas de ça, il s'agit réellement de comment l'Église, en dehors du secret de la confession, dans un domaine, on va dire, totalement public et de connaissance absolue, a décidé de cacher ce qu'on peut quand même largement appeler des failles.
Georges Fenech.
Écoutez, moi je me souviens, je crois que c'était en 2011, je présidais à l'époque la Miviludes, hein, sur les dérives sectaires, et nous avions mis à jour des actes pédophiles très graves dans une communauté qui était la communauté des Béatitudes, qui dépend de l'Église catholique et de statut d'association pontificale. Et à l'époque, la conférence des évêques avait pris des mesures, avait mis en place une structure au sein de la conférence des évêques, justement, pour veiller à ce que ça ne se produise pas et mettre des mécanismes en place de révélation. Je suis étonné que 10 ans plus tard, finalement, j'ai le sentiment que ces instruments ne fonctionnent pas véritablement. Et d'ailleurs, l'affaire, souvenez-vous, la douloureuse affaire qui mettait en cause Mgr Barbarin, qui lui-même avait manqué de réactivité, il a été relaxé in fine, mais bon, on voit bien qu'il y a encore, je pense qu'il y a un grand sujet de pédagogie, de formation du monde ecclésiastique sur ce qu'est la loi et ce que doit être le comportement d'un ecclésiastique par rapport, que ce soit dans le domaine de la confession, qui est effectivement très marginal en réalité, mais d'une manière générale, dans les comportements des ecclésiastiques par rapport à ces actes, il faut avancer par des structures qui puissent veiller à ce que ça ne se produise pas ou que ce soit dénoncé dès lors que quelqu'un, une autorité, la prenne.
Une première pause dans les débats d'Europe Soir et on revient dans un instant avec Georges Fenech, Maxime Yedo, Isabelle Florenne et Patrick Caram. Restez avec nous.
Europe Soir Weekend. Pierre de Villeneuve.
Avec autour de la table, jusqu'à 20h, l'ancien magistrat Georges Fenech, l'essayiste Maxime Yedo, la députée MoDem des Hauts-de-Seine Isabelle Florenne et le vice-président de la région Île-de-France, vice-président de Libre, Patrick Karam. À l'instant, on parlait justement de ces avancées qu'on attend encore dans l'Église catholique. C'est Georges Fenech qui rappelait à juste titre que pour... également pour les sectes et pour les religions, on attendait des avancées. Et en tout cas, pour l'Église catholique, on avait alerté plusieurs fois Patrick Karam. Vous vouliez prendre la parole justement sur le fait que c'est pas la première fois qu'il y a une alerte de ce genre.
Et je veux aussi dire que il faut se poser les bonnes questions sur cette affaire-là, parce que vous avez une immense majorité de prêtres qui, eux, aujourd'hui, se sentent salis. Il faut l'entendre. Ils se sentent aujourd'hui trahis. Certains d'entre eux peuvent vouloir remettre en question leur sacerdoce, c'est-à-dire leur engagement au sein de l'Église catholique.
Ça s'est déjà passé.
Ouais. Dans le passé, parce qu'il y a une affaire qui va finalement faire une sorte d'amalgame, tous pédophiles.
Il y a eu notamment l'affaire du Boston Globe aux États-Unis, qui a créé un
phénomène de rejet. Mais je veux, donc, une fois ça dit, je veux qu'on pense aux victimes. Parce que c'est vrai, on a parlé de technique juridique, la loi est avant la foi, oui, mais la question est d'abord humaine. Vous voyez, c'est vie brisée. Et j'ai eu, moi, dans mon métier, à avoir en audition des personnes qui, à 25 ans, 30 ans, revenaient d'une sorte d'amnésie traumatique et qui font d'un seul coup, qui s'aperçoivent que dans leur enfance, ils ont été violés. Ça entraîne des tentatives de suicide, c'est des vies brisées, c'est des hommes et des femmes qui jamais, jamais ne seront, ne reviendront dans un parcours normal pour l'immense, pour beaucoup d'entre eux, si vous voulez. C'est une vie effroyable, une vie brisée. Donc, là-dessus, la hiérarchie dont on a le sentiment qu'elle savait et qu'elle n'a pas voulu voir, qu'elle n'a pas voulu faire, devrait peut-être balayer devant sa porte. Et un deuxième élément qu'il faut aussi avoir en tête, on a, je veux dire, les lois des proportions. On a l'Église catholique aujourd'hui touchée, mais il y a d'autres religions. Il y a d'autres religions qui peuvent être concernées. Il faudrait qu'il y ait une enquête sur les autres religions. Et que sur ce type de communard, j'allais dire quasiment forcé, eh bien qu'on puisse l'avoir pour la religion musulmane, pour la religion juive, chez les protestants
partout. Il faut des signalements.
Mais il y a des signalements. Et de la même façon chez les catholiques, ces signalements-là, on ne veut pas le dire, on ne veut pas le voir. Et parfois même, les parents eux-mêmes ne le croient pas. Parce que s'aperçoit que dans ces affaires, lorsque les enfants rentrent chez eux, et que parfois, au détour d'une phrase, avant de dormir ou pendant la douche, quelques phrases sont lâchées, les parents n'écoutent pas. On le sait pour le sport, on le sait dans ce secteur-là. Il faut qu'il y ait peut-être que l'État prenne l'initiative d'une vaste enquête sur ce sujet.
Maxime Yedo.
Non, c'est très intéressant ce qui vient d'être dit, parce qu'en effet, il y a le cadre de l'Église, le cadre strict de l'Église, où on dénombre, un nombre de 2500 ou un peu plus d'enfants, c'est considérable, et on atteint 320 000, je crois que c'est ça, si on ajoute les activités
216
annexes.
216 000 selon le rapport
216 000, et on peut monter jusqu'à 330 000, exactement, si on regarde les activités annexes, c'est-à-dire le sport, les colonies de vacances, etc. Donc ça, en effet, c'est un vrai sujet de préoccupation. Maintenant, pour revenir sur le secret de la confession, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va commencer à créer une loi pour dire que le secret de la confession doit être vidé de sa substance, pour obliger les gens, en quelque sorte, à ceux qui recueillent certaines confessions, de l'avouer? Non, c'est pas le sujet. Le rapport Sauvé doit, en quelque sorte, mettre l'Église face à sa responsabilité. La loi ne doit pas intervenir dans ça. Ça doit être un travail interne. Et on a l'exemple allemand, ça date de 2018. Il y a eu un rapport universitaire sur les violences, en quelque sorte, au sein de l'Église catholique en Allemagne. Et on doit aller vers l'anti-Allemagne, parce que ce rapport est sorti. Ça a provoqué aussi un séisme, parce que le nombre était considérable. Mais on voit qu'aujourd'hui, la plupart des dossiers d'indemnisation n'ont pas avancé. On voit que des rapports qui devaient être publiés ou mis au grand public ou s'étaler dans la presse ne l'ont pas été par des raisons qu'on devine assez bien. Donc les questions à se poser, c'est celle-ci. Et je pense que l'hystérisation du débat, qui est à mon sens pas la plus percutante et la plus pertinente pour traiter cette affaire, doit
vous
cesser.
Vous trouvez qu'il y a une hystérisation du...
Mais oui, mais parce que vous voyez, ce type, ce monsieur a sans doute eu des propos très malheureux, on doit évidemment lui reprocher, on doit sans doute très rapidement baliser pour reprocher ce qui est la loi de ce qui ne l'est pas. C'est sans doute choquant, mais
il
on doit...
Il est le président de la conférence des évêques de France.
Il est sûr, la parole, et puis moi, je ne l'ai pas entendu revenir immédiatement dessus en disant, excusez-moi, j'ai parlé trop vite, et je m'excuse, etc.
Mais bien
parce
sûr,
que c'est
mais...
ce qu'on attend de lui. Mais il représente tous les catholiques, il représente toute la hiérarchie.
Bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est que quand bien même il serait revenu sur les propos, une fois que tout le monde, pendant 2-3 jours, comme nous sommes en train de faire, a rappelé la base du secret de confession, dans quel cadre celui-ci doit être en quelque sorte... on doit passer au-dessus, on le sait pour les problèmes d'abus sexuels, etc. On le sait maintenant, on doit sincèrement laisser faire, et pas comme est en train de le faire Gérald Darmanin, convoquer ce monsieur pour lui rappeler ce qu'est la loi, etc. et faire un mélange des genres qui n'est pas très sain. Je pense que
vous êtes
très
sain
de
laisser.
Maintenant, il s'agit de savoir ce qu'on fait. Le rapport, et ce qui est intéressant
rapport,
dans le rapport...
Bien,
mais le rapport fait des préconisations.
Ouais. Dont l'indemnisation des victimes
parlons-en tout de suite. Parlons-en tout de suite de l'indemnisation. Parce que souvenez-vous quand même le tollé qu'il y a eu quand on a annoncé suite à l'affaire en fait, c'est le père Prénat qui était à la base, à Lyon, de ces violences sexuelles qui ont ensuite été effectivement mises sous couvert, on peut appeler ça comme ça, par le cardinal Barbarin qui n'a pas réagi tout de suite. Souvenez-vous quand même, quand on a proposé une indemnisation, les victimes étaient effarées. Les victimes ont crié au micro d'Europe 1 et sur toutes les caméras et les micros de France qu'ils ne voulaient pas d'indemnisation, qu'ils voulaient au contraire que les choses avancent. Donc en attendant... L'indemnisation,
c'est pas suffisant, c'est que justement les choses, par rapport à ce qu'attendent les victimes d'abus sexuels. Non, mais
bien
la
sûr.
Première avancée, ça a été quand même aussi ce rapport. Ça a été de prendre en compte et de rendre public ces affaires, ce nombre d'affaires qui est effarant quand même. Et maintenant, les préconisations, quelles sont les solutions à apporter, ça vaut le coup quand même d'en discuter. Évidemment, ça ne sera pas des lois. Ça peut passer par de l'indemnisation. Nous avons voté, je rappelle quand même, en avril dernier, une loi qui est intéressante sur les violences sexuelles faites aux mineurs, qui permet justement d'avancer sur les délais de prescription avec les prescriptions glissantes. Je ne vais pas rentrer dans de la technique juridique que certains ici maîtrisent mieux, mais ce sont des avancées justement pour la réparation des victimes, parce que derrière, il y a une réparation, elle peut être financière, mais elle doit être effectivement psychologique et morale. Ça veut dire aussi que l'Église, derrière, doit mieux travailler avec la communauté, avec des espaces de discussion, d'ouverture, de libération de la parole. Et puis, après, un travail différent. Je rappelle que les laïcs en font partie, que certaines expériences ont lieu et se font déjà dans un certain nombre d'évêchés, dans un certain nombre de communautés, les choses avancent. Donc il faut se baser aussi sur ces expériences, parce que, comme on dit et que le disait Patrick Caram, on ne peut pas mettre non plus toute la communauté et tous les prêtres et les laïcs dans le même sac. Certains font de très bonnes choses, avancent sur ces sujets, il faut les encourager.
Chiffres, puisqu'on parle de chiffres, puisque c'est notamment des instituts de sondage qui ont fait le décompte en interrogeant les gens, on était à 216 000 effectivement, Jean-Marc Sauvé, dans le Figaro de mercredi matin, dans l'interview, précise que l'institut de sondage évalue à 5,5 millions le nombre total des personnes vivantes en France qui ont été victimes de violences sexuelles dans tous les milieux sociaux alors qu'elles étaient mineures.
Bien sûr.
Georges Fenech.
Mais bien sûr que je vous dis, c'est un fléau. Mais sur les chiffres qu'on nous donne, qui sont effectivement issus de sondages en réalité, des proportions. De grandeur, en réalité, le rapport Sauvé nous dit qu'il y a 22 signalements sur les 200 ou 300 000, que 22 signalements possibles aujourd'hui.
Ouais.
Parce qu'il y a prescription, parce que les acteurs sont décédés, etc. Mais je crois que...
Ça pose la question de la prescription dans cette
aussi.
Matière-là.
Mais c'est ce qu'annonce d'ailleurs Eric Dupond-Moretti, dit que lui a annoncé l'enquête à la fin de la prescription. Mais ça,
là aussi, on a allongé les délais de prescription, puisque vous le savez que c'est de 30 ans à partir de
La
majorité, à partir de 18 ans, j'ai 18 ans, donc moi jusqu'à 48 ans.
Ouais.
Mais je crois qu'avant des questions, je dirais, bassement pécuniaires, d'indemnisation, etc.
Ça, c'est le système américain.
La victime, ce qu'elle veut d'abord, c'est d'être reconnue comme victime. Le statut de victime,
exactement.
Qu'on reconnaisse sa souffrance. Et qui lui permet ensuite peut-être une reconstruction. Et ça passe évidemment peut-être par... un arbitrage, je ne sais pas, mais ça passe aussi, quand les faits ne sont pas prescrits, par la justice, qui, elle, sanctionne, reconnaît le statut de victime et accorde effectivement une réparation.
Alors, il y a deux choses. Pardon de revenir sur cette question-là, mais il y a deux choses. Il y a d'abord le fait de reconnaître qu'il y a une victime et que cette victime ne doit pas porter le poids de la culpabilité de ce qui lui est arrivé. Parce qu'on s'aperçoit aussi que quand on a été victime de violences sexuelles, on se le reproche. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Est-ce qu'on a fait de la provocation, etc. Et on vit avec ça. Ça aussi, c'est un sujet majeur. Il faut reconnaître que c'est une victime et qu'il y a en face un criminel, un bourreau.
Donc
ça, c'est le premier point.
De victime.
Et deuxièmement, et c'est tout aussi important, il y a cette question d'indemnisation que l'Église ne voulait pas voir mettre sur la table. C'est le rapport Sauvé qui le met. L'Église voulait parler peut-être de compensation financière, etc. Un terme vague. S'il y a victime, c'est donc qu'il doit y avoir réparation. Réparation morale, mais réparation aussi pécuniaire, parce qu'il y a un préjudice. Ce que vous allez subir tout au long de votre vie. Vous n'allez pas faire les études que vous devez faire, vous n'allez pas avoir le travail que vous méritez, parce que justement, vous avez été traumatisé par ce qui vous est arrivé, et le reste de votre vie, ça vous poursuit. Et dernier point quand même, pour ceux qui sont encore vivants, et pour lesquels il n'y a pas de recours juridique, eh bien, je pense qu'une indemnisation, une réparation, c'est aussi un premier pas vers la reconnaissance du statut de victime et peut-être un premier pas vers une sorte de rédemption, même si ça ne jouera jamais
le rôle quand même, c'est de
d'un
voir
procédure,
que
d'une procédure judiciaire.
L'Église catholique, dont il faut quand même saluer cet effort d'introspection et d'enquête qu'elle est à l'origine, d'ailleurs, elle-même, de la commission Sauvé.
Et
c'est très important.
Et qui, l'élan vient d'ailleurs de Rome, puisque c'est absolument. Pape François qui a quand même beaucoup œuvré pour...
Je suis chrétien catho et pourtant je vais être assez sévère là-dessus, c'est parce qu'il y a eu beaucoup de faits de violences sexuelles dans l'Église. Oui. Parce qu'il y a eu des révélations et parce que l'Église à un moment donné voulait mettre un terme à tout ça en disant on va faire un vrai travail scientifique et on va savoir et on va quantifier. Mais je pense que l'Église ne s'attendait pas à de telles révélations. Je vous dis, à l'époque, on parlait de 10 000 personnes maximum et que ça n'irait pas au-delà en 70 ans. Et on s'aperçoit qu'aujourd'hui, le tonneau des Tanaïdes est ouvert et que ça n'est pas 10 000 personnes, mais c'est des centaines de milliers de personnes.
Rendez quand même hommage, Patrick Karam, à l'actuel pape qui a quand même bousculé les choses, et on en a beaucoup parlé.
Alors moi, je rends hommage, je vous le dis, à tous ceux qui, aujourd'hui, au sein de l'Église, se battent pour qu'il n'y ait pas d'omerta sur ce sujet, et parfois même au détriment même de leur carrière au sein de l'Église. Je veux rendre aussi à César ce qui est à César en disant que ça n'est pas seulement l'Église qui est touchée, c'est tous les milieux qui sont touchés.
Oui,
l'Église est touchée. Et les autres religions doivent aussi faire leur propre introspection.
Georges Fenech, pardon, vous avez
été coupé. La répétition, c'est la pédagogie.
C'est difficile avec Patrick Karam d'aller jusqu'au bout. Mais ce qu'il dit est très juste, au fond. Mais je pense, moi, je vous interroge aussi sur... interrogeons-nous sur le fait que l'Église se propose d'indemniser. Rien ne l'oblige, juridiquement. Celui qui doit réparation, c'est l'auteur des faits. L'Église n'est pas auteur des faits. Ce sont des membres, des individus, des prêtres bien déterminés qui, à l'intérieur de l'Église
catholique, il n'y a pas
de responsabilité ni pénale ni civile, à ma connaissance.
Dès lors qu'il y a, mais il y a une complicité, dès lors qu'il y a une connaissance
par
la hiérarchie.
Ça peut être une complicité individuelle, déterminée, définie par une enquête.
C'est couvert par toute la hiérarchie.
Je vous lis ce que dit justement à ce sujet Jean-Marc Sauvé dans l'interview. Il faut tout d'abord que l'Église catholique reconnaisse sa responsabilité dans les violences sexuelles. Elle ne peut pas considérer que tous les actes déviants commis par ces clercs étaient le fait de brebis galeuses.
En fait, c'est ça. Et tout le terme est là.
Mais tout le terme est là, parce qu'au début, en effet, avant ce rapport, on se confortait, ou l'Église se confortait dans l'idée d'une brebis galeuse. C'est là où, sincèrement, je pense que l'utilisation du mot systémique et le débat quant à ce qualificatif sur ce sujet est important à poser, parce que ce serait révélateur. Et Jean-Marc Sauvé, même, dans une interview au journal La Vie, explique que c'est vraiment l'Église qui n'a pas su voir et entendre. Il ne dit pas certaines personnes, il dit que c'est l'Église qui n'a pas su voir et entendre les premières victimes. Et il dit d'ailleurs que ce rapport, c'est finalement l'histoire d'un naufrage d'une institution. Il utilise lui-même le terme de naufrage. Et quand on parle de l'après, il dit lui-même que ça fait des années qu'il y a une sorte de figure du prêtre qui est un peu glorifiée de façon excessive. Et ça, une fois de plus, ce n'est pas... Mais exactement, et ça c'est lui qui dit, c'est l'auteur du rapport. Donc ça, une fois de plus, c'est pour ça que je reviens tout à l'heure sur l'hystérisation du débat, dans le sens où on peut avoir tous
les débats qu'on veut, et c'est sans doute très sain de les avoir. Gérald Darmanin peut convoquer ce monsieur, Éric Dupond-Moretti, avec toutes les questions, même émotionnelles, que ça peut provoquer dans l'idée de pousser la prescription, savoir qu'on va déclencher des enquêtes sans forcément aboutir à une véritable reconnaissance si les faits sont véritablement prescrits, avec une machine judiciaire immensément longue, immensément compliquée. Mais la solution et la question reste toujours la même, c'est comment va faire l'Église pour traiter ces problèmes de fond, pour qu'on soit sûr que ce rapport est vraiment servi à quelque chose.
Isabelle
Ferrand. Ouais, moi, je suis partage, hein. Je suis tout à fait d'accord. Je pense que
vous
ça
êtes
pose.
Dans le partage, Isabelle.
Oui, je suis dans le partage, bien, comme au sein de l'Église.
Partage
d'ailleurs,
une opinion assez juste, ma foi.
Qui le prône. Qui le prône. Non, mais oui, c'est. Ben, oui. C'est important que l'Église quand même se pose des questions aussi sur la façon dont on voit bien, là ça se fait sur le secret, mais au-delà de ça, ces questions internes sur, qui ont été posées par Jean-Marc Sauvé, sur la place
mais
du prêtre,
la prêtre, oui.
Sur la place des laïcs, sur la place de, sur son fonctionnement, sur la façon dont on aborde aussi la ration. On voit bien que l'Église catholique, c'est pas nouveau en dehors de ces faits très graves révélés, que les questions de la désertion des églises et de la pratique se font jour. C'est pas nouveau, c'est quelque chose qui se pose à l'Église. C'est un sujet de plus, mais je crois que quand même, il y a une réforme. J'écoute le pape, je lis le pape régulièrement. Je trouve que le pape François, quand même, amène des
nouveau
choses.
Souffle.
Un nouveau souffle. Qu'il faut qu'il soit entendu, peut-être un peu plus, et en pratique, par l'Église française, sûrement.
En tout cas, on se fait toujours l'écho sur Europe 1 de ce qu'annonce le pape.
Est-ce qu'on peut se faire un parallèle entre le prêtre
seul.
Et l'entraîneur? Parce que moi, j'ai écrit un ouvrage sur le sport. L'entraîneur est une figure tutélaire, c'est-à-dire qu'il a plus d'autorité, plus il a une emprise sur les enfants, une emprise qui se révèle être supérieure à ce que l'enfant peut avoir, à la relation que l'enfant peut avoir avec les parents.
Mais
eh bien,
façon,
on est
loi,
dans le même.
La loi.
C'est
dans,
à Georges Fenech de vous interrompre.
La loi prévoit, non, mais je vais dans ce sens-là. La loi prévoit des circonstances aggravantes, que
voilà,
ce soit
absolument.
Dès lors qu'il y a autorité, que ce soit le père, l'instituteur, le prêtre, le dirigeant sportif, dès lors qu'il y a ascendance, autorité, il y a une circonstance aggravante. On peut le comparer.
Quand on parle d'emprise, il faut comprendre ce que ça signifie. Ça signifie que vous avez parfois des familles cathos, très cathos, qui confient leurs enfants à un prêtre, parce qu'ils ont confiance dans ce prêtre-là. Vous voyez. Et le sujet, c'est et souvenez-vous de cette affaire où un prêtre, ça n'a rien à voir avec la pédophilie, mais il est allé en bateau avec des gamins, il y a eu des noyades, les parents ont refusé de déposer plainte. Parce que c'était ce prêtre, parce qu'il y avait confiance en lui, il y avait des relations particulières. Il y a ça, c'est que l'enfant, lui, n'ose pas dire. Et l'enfant se rend coupable des choses. Et quand il dit les choses, les parents ne le croient pas. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il va rentrer dans un cycle de troubles, parfois qui peut aller jusqu'au suicide. Mais certains d'entre eux vont rentrer dans une amnésie. C'est le cas pour beaucoup d'entre eux. C'est documenté, ça. Hein. Vous allez regarder la littérature internationale
absolument.
Dessus.
Absolument.
C'est
absolument.
Très documenté. En France, nous avons des travaux, peut-être
c'est
pas
important.
Sur l'Église, mais sur le reste.
C'est important sur la prescription. Pourquoi est-ce que vous attendez si longtemps pour parler?
Je vais vous répondre. Dans les études qui sont faites aux États-Unis, on voit que ça dure à peu près 30 ans. Vous voyez, c'est aussi ça le sujet. C'est-à-dire que là, c'est vrai qu'il y a eu une prolongation de la durée de prescription, mais ça suffit pas parce que
cette
question, elle revient de manière récurrente. Nous la sommes posée avec mon ex-collègue Alain Touret lorsqu'on a réformé le régime des prescriptions ensemble, puisqu'on a doublé les délais de prescription en matière criminelle de 10 à 20 ans et délictuelle de 3 à 6 ans. Beaucoup d'associations sont venues nous voir à l'Assemblée à l'époque pour nous dire qu'il faut rendre imprescriptibles ces délits, ces crimes commis sur des...
Qu'est-ce
sur
qui
des
empêche murs. C'est quoi le risque?
Vous savez, le problème de la prescription, c'est quoi? C'est au fond, passer une très longue période, il y a une déperdition des preuves, des témoignages, et on va faire revivre un traumatisme 40 ans, 50 ans plus tard, en sachant malheureusement qu'on n'y arrivera pas au bout du compte et que la victime va se retrouver à nouveau souffrante parce qu'on ne la reconnaîtra pas à nouveau
lors d'un procès qui n'aboutira pas parce que les preuves ont disparu. Donc c'est cela, en fait, la prescription, c'est le problème, la disparition des preuves au bout d'un certain temps. Mais je reconnais que ce débat peut être posé. Et si vous allez dans d'autres pays, par exemple, la prescription n'existe pas. Hein, que ce soit aux États-Unis ou en Grande-Bretagne ou en Allemagne, on a aboli toute prescription. Hein.
On continue le débat justement sur ce point très très important de la prescription. Je vais y arriver avec Georges Fenech, Maxime Liédo, Isabelle Ferren et Patrick Karam qui, juste après la pause, va vous répondre.
Europe Soir Weekend. Pierre de Villeneuve.
Autour de la table, l'ancien magistrat Georges Fenech, l'essayiste Maxime Liédo, la députée Modem des Hauts-de-Seine Isabelle Florenne et le vice-président de Libre Patrick Karam. Et évidemment, on est parti de cette déclaration de Monseigneur de Moulins-Beaufort sur ce secret de la confession, interview qui est passé chez nos confrères de France Info mercredi et qui, depuis, n'arrête pas de susciter les réactions et notamment celle d'Éric Dupond-Moretti. Encore ce soir, l'interview va être diffusée en long sur LCI ce soir. Dans le droit, si un prêtre reçoit dans le cadre de la confession la connaissance de l'existence de faits qui se déroulent en ce moment, alors il a l'impérieuse obligation de mettre un terme à ces faits. Donc, il doit alerter sans quoi d'être condamné s'il ne le fait pas. Ça s'appelle non-empêchement de crime ou de délit. On parlait juste avant la pause des délais qui doivent être... Il y a effectivement une prescription. Georges Fenech, vous disiez que ces prescriptions, vous aviez travaillé là-dessus pour qu'elles soient rallongées, ces délais. Et on se demandait si on ne pouvait pas tout simplement abolir les délais.
Vous savez, la loi de février 2017 qui a réformé donc, les régimes de prescription, elle est partie du constat qu'on est passé depuis Napoléon, parce que les délais de prescription remontaient à Napoléon, au code napoléonien, on est passé d'une société de l'oubli à une société de la mémoire. Aujourd'hui, plus rien ne se perd. Et puis, par rapport à l'époque napoléonienne, l'espérance de vie a largement augmenté. Donc il fallait revoir tous ces délais de prescription, c'est pour ça qu'on les a doublés, maintenant en matière criminelle. L'action publique, elle se prescrit au bout de 20 ans et non plus 10 ans. En matière délictuelle, 6 ans et non plus 3 ans. Et donc, la question est venue sur l'imprescriptibilité de certaines infractions. Fallait-il aller plus loin? Vous savez qu'il y a un seul crime qui est imprescriptible dans notre droit, c'est le crime contre l'humanité, qui s'est appliqué une fois à Lyon, précisément à l'occasion du procès Klaus Barbie. Mmh. Et puis l'affaire Papon également. Mmh. Mais qu'est-ce qui nous a retenu de le faire? C'est, je vous dis, la question du dépérissement des preuves. Parce que d'ores et déjà, on le sait, le législateur a augmenté avec des délais très spécifiques. Ce n'est pas 20 ans pour les agressions et les crimes contre les mineurs, c'est 30 ans.
Ouais.
Et le point de départ de la prescription n'est pas le jour de la commission des faits, mais le jour où le mineur est devenu majeur.
Donc à 18 ans.
À 18 ans. Donc vous voyez,
c'est 18 plus 30,
on peut jusqu'à 48 ans, ce qui est déjà beaucoup, ce qui est déjà très important. Fallait-il supprimer tout délai de prescription? Nous étions convaincus, avec mon collègue à l'époque, que c'était la dernière loi, sans doute, sur la prescription, et qu'un jour, nous finirons par abolir la prescription, comme l'ont fait d'autres pays, notamment les pays anglo-saxons, les Américains, les Allemands.
Ouais.
Est-ce que c'est souhaitable? Je ne peux pas vous dire, je n'ai pas la réponse, parce qu'il y a la question du dépérissement des preuves, voyez-vous, et du nouveau traumatisme subi par une victime qui se verrait refuser le statut de victime 50 ans plus tard et qui pourrait revivre à nouveau par manque de preuves,
un traumatisme.
Donc c'est une question qui est très difficile, mais qui mérite encore sans doute d'être débattue.
Patrick Karam, vous vouliez répondre à Georges Fenech.
Oui, c'est pas parce que vous rendez un crime imprescriptible que les preuves vont s'effacer. Si vous n'avez pas des preuves au bout de 20 ans, au bout de 30 ans, vous avez le même problème, vous ne l'aurez pas plus au bout de 40 ans. Ce que je veux dire, c'est que le sujet, effectivement, de la preuve, c'est un autre sujet. Vous avez dit qu'il y a dans le droit français des crimes contre l'humanité qui sont imprescriptibles. Je pense à l'esclavage, on a parlé des crimes nazis, la Shoah, etc. Il y a des crimes aujourd'hui qui sont dans notre droit positif et qui sont imprescriptibles.
Un seul. Le crime contre l'humanité.
Le crime contre le génocide.
Crime contre l'humanité.
Alors, ce sont deux phénomènes un peu différents. Voilà. Et qui sont imprescriptibles. Moi, je considère qu'il faut donner un message. D'abord, un message de fermeté. N'allez pas jouer sur les délais. N'allez pas jouer sur les délais en vous disant que cette amnésie traumatique qui fait que la victime va oublier en moyenne 20 ans, 30 ans, parfois 40 ans, il va oublier ce qui est arrivé et va s'en souvenir. Et quand il s'en souviendra, ce sera trop tard pour vous attaquer. N'allez pas jouer sur ça. Deuxième élément, moi j'ai écrit le livre noir du sport. Voilà. Et dans ce cadre-là, j'ai interrogé un certain nombre de victimes de violences sexuelles et de viols. Et je peux vous dire que celles qui ont atteint l'âge où elles ne peuvent plus déposer plainte le ressentent comme une souffrance. Mmh. Elles se sont aperçues parce qu'elles ont rêvé de telle ou telle situation. Un matin, il y a telle chose, tel événement dans leur vie.
Elles veulent que ça
s'arrête. Elles veulent pouvoir demander justice.
C'est ce qu'on disait à l'instant avec Georges Fenech.
C'est aussi nommer la personne. Ouais. C'est aussi la montrer du doigt. Ouais. C'est aussi l'emmener au tribunal. Après, elles sont conscientes qu'il y a un risque de ne pas être entendues parce qu'il y a le problème de la preuve. Mais Maxime, elles veulent pouvoir, c'est un peu la procédure du name and shame, elles veulent pouvoir le pointer du doigt cette personne.
Je pense qu'il y a tellement d'autres éléments à prendre en compte quand on parle de ces traumatismes-là. D'abord, évidemment, le traumatisme de la victime, la nécessité du temps qui passe parfois pour la réaliser, mais il y a aussi toute la difficulté avant éventuellement d'en arriver jusqu'au procès, c'est-à-dire déjà la difficulté d'aller porter plainte, la façon dont ça se déroule quand on porte plainte, les quelques étapes, les rendez-vous avec le psychologue, des médecins. Non mais c'est aussi à prendre en compte des médecins légaux parfois pour certifier, pour discuter.
C'est vrai aussi pour les femmes majeures victimes de viol.
C'est pour ça que je prenais exactement. C'est pour ça et je me permettais de faire ce parallèle en effet parce qu'on en a tous hélas de plus en plus autour de nous qui en sont victimes et c'est un phénomène pour arriver jusque là qui est très compliqué. Donc si on essaie de disséminer un espoir d'un procès qui n'arrivera peut-être jamais à cause du dépérissement des preuves, etc., ça peut s'ajouter comme étant un traumatisme de plus.
Mais pourquoi ne pas laisser le choix aux victimes, après, à libre choix d'aller effectivement au bout de la procédure, quitte à avoir un traumatisme.
Mais je suis d'accord avec vous.
S'il n'y a pas la possibilité parce qu'il y a un délai à respecter, dans ce cas-là,
non, mais je suis d'accord avec vous. D'ailleurs,
vous souvenez qu'à l'occasion de l'affaire Duhamel, vous vous souvenez ?
Oui.
Elle s'est posée la question, parce que là, les prescriptions étaient acquises.
Ouais.
Et finalement, ça a choqué beaucoup de monde, effectivement.
Isabelle Florian.
Non, mais moi, je pense que quand même, toute cette vague tout à fait salutaire et nécessaire qui a été engendrée par notamment MeToo et la libération de la parole sur les agressions, les crimes sexuels, nous fait changer d'air, entre guillemets, dans aussi la façon d'appréhender la justice. Forcément, ce débat sur la prescription, on l'a eu il y a encore 6 mois à l'Assemblée nationale sur ce crime, sur cette loi, sur la protection nouvelle des mineurs. Mmh. Donc on a allongé les délais, vous l'avez dit. Maintenant, effectivement, on a avancé sur cette prescription glissante qui permet, quand un acte est reproché à un auteur de fait qui était prescrit, de réouvrir finalement... la procédure, ce qui est une prescription glissante parce que un certain nombre d'élus, de parlementaires poussent sur ces sujets et c'est une bonne chose. C'est vrai que vous dites il y a de plus en plus d'affaires. Oui, il y a de plus en plus d'affaires parce qu'aussi ce gouvernement s'est saisi du sujet, en a fait une cause essentielle du mandat du président de la République. Je dis simplement que si nous agissons, si nous ouvrons des dépôts de plainte dans les hôpitaux, c'est qu'il y a une volonté derrière aussi politique qui doit se mettre en œuvre. Ça fait des années que des affaires existent. Il faut une volonté politique pour les démultiplier.
C'est le contexte international.
Il faut aussi
le contexte international qui a joué le rôle de révélateur. Le MeToo a permis de secouer les léthargies. Parce que tous les gouvernements précédents...
Nous avons donné à ces associations, à ces victimes, le moyen de porter plainte.
Bien sûr que c'est important de sanctionner, de réfléchir au plan de la prescription, mais il est non moins important de faire en sorte qu'il y ait une possibilité d'interrompre ces crimes et ces délits en développant un maximum de formation et de sensibilisation de tous ceux qui sont en contact avec les enfants et qui ne sont pas forcément formés pour cela, qui peuvent avoir des indices. Non, mais je pense, moi, dans les écoles, les dispensaires, les infirmières, les services sociaux, les assistantes sociales, tous ceux qui sont au contact des milieux familiaux, etc., d'avoir cette connaissance de ce qu'est un signe faible d'un enfant, parce que, vous savez, la maltraitance psychologique ne se voit pas forcément comme une maltraitance physique quand il y a des traces de coups.
Une agression sexuelle, ça laisse pas forcément des traces physiques. Par contre, il y a une souffrance psychologique qui est très importante et qu'il faut savoir déceler. Et ça, ça suppose des références, ça suppose des formations pour arriver à faire en sorte que le criminel soit repéré le plus vite possible, que l'enfant soit sorti des griffes, soit d'un instituteur, soit d'un... Vous voyez ce que je veux dire ?
Georges Fenac a parlé de signaux faibles. Donnons quelques exemples, comme ça les choses seront claires. On ne comprend pas ce que c'est. C'est très simple. Un enfant qui travaillait bien à l'école, qui était dans un cercle de camarades, tout allait bien, il était heureux, il rentrait à l'école. D'un seul coup, il ne veut plus aller à l'école.
Il
pleure sans raison. Il se met à faire des crises de nerfs à répétition. Il change de comportement, il s'enferme. Enfin, vous devez vous interroger. Ce sont des signaux faibles qui doivent vous alerter et pour lesquels vous devez avoir une réponse adaptée. Et j'invite les parents, à se faire accompagner par un psychologue. Parce que seule, la question est très, très difficile à aborder avec le gamin, avec aussi la question de la prise en compte de la parole. Imaginez le gamin vous dit c'est ton frère qui a fait ça. Qu'est-ce que vous faites ? Ou c'est ta sœur qui a fait ça ? Qu'est-ce que vous dites ? Qu'est-ce que vous faites ? Il doit absolument se faire accompagner par un psychologue qui travaille sur ces questions. Parce que tous ne sont pas formés dessus, mais les spécialistes de ces questions-là sauront
être précis. J'espère qu'il y a quand même des dispositifs à l'heure actuelle.
Non, ils sont en train de mettre des dispositifs. Je pense par exemple au ministère des Sports. Une fois n'est pas coutume, je veux quand même rendre hommage à Mara Sinéanou, à la ministre des Sports, qui met en place aujourd'hui un véritable référentiel, qui met en place des formations précises et qui aujourd'hui a lancé un réseau de lanceurs d'alerte. Donc c'est important. On commence à lever l'omerta dans le sport parce qu'il y a 4 à 5 fois plus d'occurrences dans le sport qu'ailleurs.
Il y a eu des alertes d'anciennes sportives justement qui ont porté plainte.
Mais après MeToo, il y avait déjà eu ces alertes. Mais après MeToo, c'est devenu une vague. Et il y a eu une quantification de cette vague-là. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, vous avez des associations qui sont spécialisées, qui travaillent dessus. L'idéal serait d'avoir des associations spécialisées, mais qui travaillent dans tous les secteurs. Ceux pour la religion, etc. C'est ça qu'il faut.
Maxime Yedo ?
Je pense aussi qu'on a en quelque sorte, je ne sais pas si le terme est approprié, la chance d'avoir connu cette dernière année une prolifération d'œuvres, qu'elles soient cinématographiques ou littéraires, de cas malheureux qui ont fait quand même toucher du doigt ou un public beaucoup plus large. Il y a eu le livre dont j'ai oublié le nom, hélas, de Vanessa...
Spingora.
Spingora, etc. Il y a eu le film
sur Matzneff.
Exactement. Il y a eu évidemment le livre de Camilla Kouchner sur la famille Duhamel. Il y a eu également un film d'Andrea Bescon qui a énormément fait parler justement sur les chatouilles, sur ce qu'était justement l'environnement clos, des parents au courant qui ne veulent pas justement.
Terrible film.
Allez, c'est pour ça. Mais je pense. Mais qui est tellement révélateur. Il faut le voir, je pense, pour justement savoir saisir ce que c'est d'être au courant de ça. Et on peut quand même saluer ces quelques œuvres qui permettent parfois de prendre conscience de ces phénomènes. De ces phénomènes-là.
Et ben, même sur un sujet comme ça, voilà, et on finit sur des conseils de lecture et de cinéma. Effectivement, ça peut vous ouvrir les yeux, en tout cas si vous ne connaissez pas le côté terrifiant de ces affaires. On revient après le journal de 19h, on partira à Marseille. Marseille qui, pour le second jour consécutif, a rendu hommage à Bernard Tapie, hommage digne d'un chef d'État, d'un chanteur populaire, d'un international de foot. Le Tapie Show à Marseille, le jour de ses obsèques. Et puis, dans un autre genre, Édouard Philippe, à quoi joue-t-il Édouard Philippe avec son parti, ses rassemblements? Y a-t-il concurrence ou loyauté avec Emmanuel Macron? Alors ni l'un ni l'autre. On en parle, restez avec nous cette Europe 1.
Europe Soir Weekend, 18h-20h.
Pierre de Villeneuve.